Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré à l'actualité du cinéma avec Charlotte Lipinska de Vogue, Jean-Marc Lalanne des Arts Occuptibles, Eric Neuf du Figaro et Michel Simon de Positif. On parle ce soir du West Side Story de Spielberg, d'Un héros d'Asghar Farhadi, des Amants sacrifiés de Kurosawa, de Cher Léa de Jérôme Bonnel, de Lingui de Mahamat Saleh Haroun, d'Une femme du monde de Cécile Ducrot, et on essaiera d'apercevoir en fin d'émission la fameuse Panthère des Neiges. Dans le courrier de la semaine, Cry Macho, le film de Clint Eastwood, encensé au masque et la plume, bien malgré moi, il faut dire, n'a pas eu l'heure de plaire à nos auditrices et auditeurs. Le film de trop pour Clint Eastwood, nous écrit Madame Pascale Joseph. Dialogue nul, mise en scène cliché, jeu d'acteur nul. Il faudrait que Clint admette avoir passé l'âge. Yves Palazzetti, Cry Macho est un film lourdingue, insipide et parfois ridicule. Au point, ajoute Chantal de Pouilly-les-Feur dans la Loire, d'en devenir un film comique pour Daniel Brévin. Ne fais pas cette tête, Michel. Ce sont les messages. Pour Daniel Brévin, comme disent les jeunes, ce film, c'est la gênance. Dans Cry Macho, remarque Gisèle Mornac, Eastwood dit « Je ne sais pas comment guérir la vieillesse ». Le film en est une longue démonstration. Pour Arnaud Sanquer, rien ne fonctionne, faute un scénario plein de guimauves attendu sans la moindre complexité. C'est pas grave, Eric, c'est pas grave si on n'est pas d'accord avec toi. Frédéric Darin, qui nous écrit depuis la Nouvelle-Orléans, est stupéfait que Le Masque ait trouvé ce film bouleversant et lui reproche, au masque, hein, son respect pour les monuments patrimoniaux. Eastwood se meut aujourd'hui comme un automate rigide, une mécanique grippée. Et je remercie Jérôme Garcin et Céline, votre spectatrice, pour leur réserve. Ces choses étant écrites, je vous aime. Merci quand même, Frédéric. Sinon, Gilles Cordon de Strasbourg, qui est fan de Céline Dion et de Valérie Lemercier, n'a pas aimé, tant pis Jean-Marc, hein, n'a pas aimé Aline. Il parle d'une affreuse parodie, tout est grotesque. L'enfant joué par Lemercier est carrément flippant. Le playback est raté et les scènes de live sont laides. À quand un biopic de Michael Jackson 2 et pas Liane Folly. Enfin, Trépiani de Nanni Moretti a touché nos fidèles. Jérôme Duvivier de Lyon juge que dans ce très beau film, tout est traité avec une pudeur et une subtilité qui emporte l'adhésion. Et Caroline Vignal de Paris nous écrit « Trépiani a été une de mes plus grandes émotions de cinéma de l'année. C'est un film grave, profond, mal aimable, sec et bouleversant. Et contrairement à ce qu'a dit Michel Simon, Moretti a cessé depuis longtemps de prendre toute la place. Il se fout de ce qu'on attend de lui. Il fait les films qu'il doit faire et ça force l'admiration. » C'est pas un courrier pour toi ce soir, hein, Michel, hein ? Bon. Et on commence avec West Side Story, le 34e film de Steven Spielberg, scénarisé par Tony Kushner. Et c'est à 74 ans, comme quoi tout arrive, sa première comédie musicale, avec Ansel Elgort en Tony, Rachel Zegler qui succède à Natalie Wood dans le rôle de Maria, Ariana DeBose dans le rôle d'Anita, que tenait en 1961 Rita Moreno, laquelle, à 89 ans, devient ici Anita. Et 60 ans après le film culte 10 fois oscarisé de Robert Wise et Jérôme Robbins, tiré d'une comédie musicale elle-même, vous le savez tous, inspirée de Roméo et Juliette, Spielberg d'ailleurs dont l'enfance a été bercée par le 33 tours de la musique de Bernstein, donne une nouvelle jeunesse à ce West Side Story, à l'histoire de ces deux gangs rivaux qui se disputent en 1957, les rues de New York, les Jets, irlando, polono, italien, et les Sharks d'origine portoricaine, et à l'amour que se vouent Tony des Jets et Maria des Sharks. Est-ce que ce remake vous a touché, Charlotte ?
Je pense que j'avais en tête la question que tout le monde se pose au démarrage du film. pourquoi faire un remake d'un tel chef-d'œuvre ? Et finalement, cette question, elle a été balayée très très vite, tellement je trouve Spielberg est à la fois extrêmement respectueux de l'œuvre originale, tout en y apportant quand même, moi je trouve, une nouvelle vision, à savoir que d'abord les questions raciales sont beaucoup plus présentes, je trouve, la xénophobie, le racisme, que dans le film de Wise. Il y ajoute plus de noirceur, plus de violence, et en ça, je trouve le film très intéressant. La musique de Bernstein est tellement dingue, c'est-à-dire qu'on a tous en tête les notes, chaque titre, que moi je battais la mesure très très vite. C'est un rouleau compresseur, quoi. C'est-à-dire que cette bande-son, on ne peut pas lutter, elle vous emporte. Et moi j'ai été complètement emportée dans ce New York de 1957, avec peut-être une petite réserve, c'est que je trouve que le casting masculin est un peu en deçà du féminin, notamment le Tony, je le trouve assez palichon, alors que la nouvelle Anita,
la petite Ariana, Rachel Zegler,
les deux sont démentes. Les deux, la jeune Maria et celle qui joue Anita aussi, sont absolument magnifiques. Et puis le fait de faire jouer Moreno dans ce rôle qui est donc, alors originellement c'était le pharmacien qui devient là la veuve du pharmacien, ben finalement c'est plus qu'un clin d'œil à l'original. Je trouve que c'est aussi tisser un lien avec le passé pour nous montrer que cette violence, elle est toujours là 60 ans après, c'est systémique. Et en ça, je trouve le film assez bouleversant.
Jean-Marc, tu as marché, toi, ou pas ?
Beaucoup. Je trouve très beau, effectivement, la manière dont il modernise sur certains points le film, notamment, comme l'a dit Charlotte, sur certaines conventions qui ne sont plus possibles aujourd'hui, comme de faire jouer des personnages portoricains par des acteurs blancs. La gentrification de New York est aussi vraiment extrêmement critiquée d'une manière extrêmement intense. Et en même temps qu'il réussit un film d'une très très grande vitalité, il y a quelque chose de fantomatique dans le film qui est bouleversant. Il y a vraiment une idée magnifique au début du film, qui est vraiment un apport de Spielberg, c'est qu'il situe le film sur un chantier, qui est le chantier de la construction du Lincoln Center. Donc là encore, c'est aussi la critique de la gentrification. Mais aussi, ça produit quelque chose, c'est qu'il y a de la poussière qui se dépose en permanence sur les personnages, sur les décors, et le geste de dépoussiérer le film est inscrit sans arrêt à l'écran. C'est-à-dire qu'il ramène à la vie quelque chose qui revient de très très loin. C'est pas seulement un chantier qui contribue à l'édification d'un building, mais qui aussi consiste à déterrer un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma du XXe siècle et quelque chose qui remonte à sa préhistoire de spectateur. Et ce côté un peu crépusculaire, spectral dans le film le rend totalement bouleversant.
Et en même temps moderne, parce qu'il a quand même tourné près de 70% des plans dans New York, dans les rues de New York. C'est vraiment pas du décor, c'est le New York d'aujourd'hui. Eric ?
Il y a beaucoup plus de linge qui sèche aux fenêtres, mais à part ça, en gros, c'est la même chose, mais en beaucoup moins bien, j'ai trouvé.
Oui,
c'est...
ton journal a été à bouder ce film, j'ai vu ça cette semaine. Oui.
Non, parce que si comme le premier a été oscarisé, celui-là, il sera pasteurisé d'emblée. Non, mais Charlotte a raison, c'est quand même... On voit très bien comment s'est passé le casting.
Tu dis Charlotte a raison, mais tu dis le contraire d'elle.
On voit très bien comment s'est passé le casting pour les garçons. Pour les filles, c'est un peu moins dramatique, mais là... Ils ont choisi les types qui avaient le regard le plus abruti, le plus bovin.
Bernardo est vachement bien.
Non, je préfère le Bernardo de Zorro, au moins il se tait. et là, il y a vraiment tromperie sur la marchandise. C'est pas un remake de West Side Story, c'est un remake d'Hélène et les garçons. Il y a deux bandes de crétins qui sont en train de couvrir l'amour de ce couple-là.
Parce t'as que pas
la,
chanté,
la dramaturgie est absolument identique à l'original.
Il faut le regarder les yeux fermés. Parce
c'est le procès distendu de l'histoire du récit, en fait, que tu fais.
Non, les yeux fermés, la musique est parfaite.
Jérôme Robbins avait écrit Hélène et les garçons.
Quand vous voyez les numéros chorégraphiés, c'est beaucoup moins bien que dans le Robert Wise, parce que c'est monté, il y a plein de coupures, on voit pas du tout la continuité, comment ça se déroule.
C'était très monté, le Robert Wise. C'était qu'il découpait, alors que la comédie musicale classique filmait en séquence.
On regrette de loin le visage plein de cirages de George Sakiris, qui faisait un des portoricains, et je trouve que le film est totalement démodé, parce que Spielberg, qui n'est pas un imbécile, aurait pu actualiser le truc ou tourner quelque chose comme La La Land sans se soucier, parce qu'il y a quand même d'autres problèmes aujourd'hui que les portoricains à New York. Et le film est quand même très très démodé. est très hollywoodien, parce que même les gravats ont l'air tout propres de sortir d'un studio de décoration. La poussière doit être sponsorisée par la maison Dior, et tout est comme ça. C'est des, là, on a l'impression que le Paris d'Hidalgo est beaucoup plus sale que le chantier du Lincoln Center, et je n'ai qu'une hantise, moi, c'est qu'après ça, si jamais le film marche, Spielberg se met en tête de refaire Chantons sous la pluie, alors là, j'arrête d'aller au cinéma.
Le film a très bien démarré, moins bien que
le début démarre bien,
moins bien qu'un film que je ne t'ai pas infligé, qui est Les Tuches 4.
J'avais vu le 3 à cause de toi, je remarque que tu nous épargnes.
Oui. D'ailleurs, il n'y a pas que le Figaro.
Michel.
Il n'y a pas que le Figaro qui n'a pas aimé le film, puisque Le Monde a mis la même note qu'aux Tuches 4. Ah, une étoile, du même niveau que les Tuches 4. Oui, absolument, mais je n'invente jamais rien. Voilà, donc non, moi je pense que Spielberg me fait penser à Orson Welles quand il était, pas le génie de Welles bien sûr, mais quand Orson Welles est arrivé à Hollywood, il a dit « quel beau train électrique ». C'est d'ailleurs un enfant qui va jouer avec le médium. Et Spielberg, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'à 74 ans, il a encore ce plaisir de filmer qui communique au spectateur, parce que c'est un vrai spectacle. Moi, j'étais absolument enchanté. Alors, c'est pas un remake dans la mesure où il s'agit, au départ, d'une comédie musicale sur scène. À chaque fois qu'un théâtre reprend une pièce, ou à chaque fois qu'on dit pas c'est un remake de Hamlet, c'est un remake du Mariage de Figaro, non, c'est pas un remake. Et d'autre part, je vais choquer les auditeurs. J'aime beaucoup West Side Story, c'est un très 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 bon film. Ce n'est pas un chef-d'œuvre. Chantons sous la pluie ou Tous en scène de Minnelli sont des chefs-d'œuvre de la comédie musicale originaux qui ont été faits pour le cinéma. Là, on pourrait parler de remake, mais là, il ne s'agit pas de ça. C'est un film merveilleux de dynamisme, je trouve que les ballets, et puis c'est la conjonction de tous ces talents extraordinaires, Jérôme Robbins pour la chorégraphie, Arthur Laurence pour le libret, les paroles de Steven Sondheim, la musique de Leonard Bernstein, et c'est un plaisir fou de voir ces ballets absolument merveilleux, ce filmage de New York, et je trouve que Spielberg, qui n'a jamais fait de comédie musicale, réussit une comédie musicale d'aujourd'hui. C'est « That's entertainment », c'est le cinéma hollywoodien dans ce qu'il a de meilleur.
Je voudrais juste préciser que c'est pas la chorégraphie de Robbins hein, qu'ils ont repris. Non, il y a eu un autre chorégraphe,
plus, bien sûr,
là, sur le film de Spielberg,
inspiré.
Et c'est inspiré de.
Très inspiré de Robbins.
Et là encore, Spielberg a raconté que le temps pris pour les répétitions des chorégraphies était plus long que le temps de tournage du film.
Charlotte, c'est Justine Peck. Il faut lui rendre hommage.
Parce West Side Story, le nouveau film de Steven Spielberg. On passe à un héros qui a eu le Grand Prix au Festival de Cannes, le film de l'Iranien Asghar Farhadi, qui marque aussi son retour au pays natal après des détours pas toujours inspirés par la France, je pense au passé évidemment, ou l'Espagne, et je pense à Everybody Knows. Tout ce qu'on aime, en tout cas tout ce que j'aime, chez le cinéaste de La Fête du Feu et d'une séparation, on le retrouve ici. Alors, au début du film, Rahim, c'est Amir Jadidi, qui est un comédien, qui a un physique presque italien, un peintre en calligraphie, sort de prison où il purge une peine de 3 ans pour une dette qu'il n'a pas payée, et qu'il a contractée envers son beau-frère, qui n'a pas l'air commode. Hein. Il a obtenu une permission de 2 jours, et il va retrouver sa famille à Shiraz, mais aussi sa compagne, que cet homme divorcé aime clandestinement. Une compagne qui a trouvé dans la rue un sac rempli de pièces d'or. Ce trésor pourrait permettre à Rahim de rembourser sa dette, mais il décide, après avoir hésité, de restituer l'argent à celle qu'il a perdue. Et très vite, grâce aux réseaux sociaux, Rahim devient un héros dont la télévision vante la loyauté et l'intégrité. Machine à fabriquer une légende qui est même, je dirais, un modèle national qui va bientôt s'enrayer, mais je n'en dis pas plus. Dramaturgie implacable, implacable aussi la démonstration par l'absurde de la vie et de l'administration en Iran. Voilà le nouveau film de Farhadi. Michel.
Ce que je trouve passionnant dans le film, comme toujours chez Farhadi, c'est le scénario. C'est-à-dire, il y a une sorte d'engrenage qui prend quelqu'un dans un réseau dont il ne peut pas finalement se débarrasser. Hitchcock peut traiter ça aussi, c'est le faux coupable. Sauf que c'est encore plus ambigu parce que on ne sait pas finalement si ce type est un roublard qui essaye de s'en tirer, etc. Ou au contraire un naïf qui ne se rend pas compte dans quel trou il va se trouver.
On le sait d'autant moins qu'il a tout au long du film un sourire dont on n'arrive pas à savoir si c'est un sourire de façade ou si c'est un calcul de stratégique.
Alors si Spielberg s'intéresse aux conflits de race ou des conflits de communauté, lui, il s'intéresse beaucoup à l'opinion publique, aux réseaux sociaux, avec les revirements qui se produisent dans le cours du film. Donc je trouve que c'est un film toujours d'une extrême intelligence. On insiste un peu toujours trop sur son talent de scénariste. C'est également un film, évidemment, d'une très grande sobriété. Il n'y a pas d'effet de mise en scène, mais en même temps d'une extrême rigueur qui est égale à la rigueur du scénario.
Éric ?
Ben là, on a pour une bonne fois pour toute la preuve que les films de Faraday, c'est comme la Guinness, ça ne voyage pas. Il faut que ça se passe en Iran pour que ce soit bien. Et là, c'est vraiment très, très réussi. Et Michel parle d'engrenage et j'ai enfin trouvé à qui me faisait penser Faraday dans ses bons jours. C'est à David Mamet. C'est un peu le même genre de scénario d'engrenage, de héros qui se retrouvent pris dans un réseau dont il ne comprend pas tous les aboutissements.
Et avec toujours une scène cruciale qui est en même temps un peu impénétrable et où tout se joue.
Oui, toute une série de glissements progressifs et des petits mensonges qui s'ajoutent les uns aux autres pour essayer de réparer la situation et qui enfoncent complètement le héros là-dedans avec son sourire béat, son air de chien battu. Alors, soit on a envie de le secouer en disant « mais t'es le ravi de la crèche » ou alors « t'es un manipulateur complet ». On voit aussi qu'en Iran, la prison, les médias, les réseaux sociaux, tout ça est aussi important que chez nous. Hein. C'est qu'une permission de 48 heures, le type a la chance d'avoir quelqu'un qui a trouvé un sac avec 17 pièces d'or. Mais il n'est pas sympathique, c'est ça qui est pas mal du tout.
Il n'est pas antipathique ?
Non plus, on ne sait pas ce qu'il est, et c'est ça qui fait l'intérêt du film. Le suspense, c'est est-ce que c'est une ordure ou une victime ? En tout cas, c'est pas un type qu'on a envie de serrer dans ses bras, mais pendant 2 heures et quelques, on a envie de le voir sur l'écran, et on souhaite qu'il s'en sorte.
2h08 exactement, Jean-Marc.
Mais effectivement, c'est la version réussie du cinéma de Faraday, là où le précédent film était vraiment une catastrophe, Everybody Knows, et même, en même temps, en voyant la version réussie, je me rends compte à quel point je n'aime pas du tout ce cinéaste. Et même lorsqu'il réussit des films, ces films ne me touchent absolument pas.
Tu n'as jamais aimé ni Une séparation,
même Une séparation, qui est effectivement un film très abouti, très maîtrisé. Même quand les films sont très maîtrisés, d'une certaine façon, je vois encore mieux ce que je n'aime pas chez lui.
C'est
une manière. J'ai l'impression que ces films s'enivrent des pièges qu'ils construisent contre leurs personnages, et que au bout d'un moment, j'ai l'impression que la batterie d'embûches qui contrarie l'itinéraire du personnage, finalement, c'est plus l'acharnement du cinéaste et la spectacularisation en fait de sa chute qui moi produit chez moi un très très grand malaise, et je n'y vois qu'une espèce de frénésie d'effets scénaristiques, une lourdeur démonstrative qui me laisse plus je sens qu'il essaie de doper son scénario, de viser une sorte d'adrénaline, de thriller.
Ah, il le fait plus que Vera Zeta Cool, ça c'est sûr.
Je préfère Vera Zeta Cool, je préfère les films qui laissent un peu respirer et leurs personnages et leurs spectateurs que ce maillage extrêmement serré que je trouve rigide et irrespirable.
C'est ton droit. Charlotte.
Je suis pas totalement d'accord avec Jean-Marc, mais je le rejoins sur un point, c'est que dans cette mécanique implacable de ce scénario qui effectivement, je pense, sera peut-être un jour étudié dans des écoles de cinéma, tellement il est d'une rigueur absolue, mais moi, il m'a manqué de l'émotion. C'est-à-dire que à aucun moment je n'ai été émue, alors qu'on devrait quand même l'être à minima.
On l'est avec l'enfant.
Avec son enfant qui a du mal à parler et qui se retrouve manipulé lui
du
aussi.
Du héros et dont il se sert pour le.
Mais après je trouve le film quand même je l'ai trouvé extrêmement intéressant parce que finalement il soulève énormément d'enjeux moraux tels que l'honneur, l'honnêteté, la vérité. Mais c'est un film qui est filmé comme un thriller sans cadavre et comme un film social. Sans aller sur le terrain de la misère et de la pauvreté. Et en ça, je trouve qu'il trouve un chemin pour ausculter la société iranienne. Moi, je découvre, par exemple, qu'il y a des soirées de charité où les gens sont appelés à contribuer pour payer la dette de quelqu'un.
Oui, ça, c'est en Iran.
C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on choisit un peu à qui on veut donner de l'argent selon les situations. Donc, ils doivent se vendre, entre guillemets, pour qu'on les aide. C'est complètement inouï. Et donc, il y a cette toile d'araignée qui se forme autour de ce malheureux homme. Et je trouve quand même assez forte la manière dont le mensonge s'insinue absolument partout. Alors évidemment, dès le départ avec ses pièces d'or, mais aussi auprès de ceux qui sont censés normalement être gardés garant un peu de la justice, à savoir les directeurs de prison, voire les associations qui aident les défavorisés et qui s'arrangent tout à fait aussi de mensonges quand ça les arrange et que ça leur fait du bien. Donc le film a cette rigueur implacable de scénario. Maintenant, où est l'émotion? Je la cherche encore.
Oui, mais d'autres l'ont vu. Et puis, cela dit, tu dis que c'est implacable, mais il y a toujours, on en sort quand même avec une part de mystère qui n'est pas élucidée. Hein.
Ah bah, bien sûr. Mais c'est ça qui fait la complexité. Rien n'est vraiment clair.
Oui, Michel.
Très brièvement, il y a tout de même une énigme qui reste. On a vu cette année des films iraniens extraordinaires, oui, des chefs-d'œuvre. Comment ce régime, un des plus autoritaires au monde, un des plus répressifs, un des plus intolérants, accepte finalement que sortent tant de films qui montrent les mécanismes de la société iranienne, le fonctionnement de la justice, le fonctionnement des prisons, le fonctionnement des réseaux sociaux, etc. C'est très étonnant.
Enfin, tu en as qui sont tournés de manière clandestine, comme
oui,
c'est le dernier Rasoulof.
C'est presque unique dans l'histoire des dictatures du XXe siècle ou du XXIe siècle.
C'est qu'il les laisse tourner tout de même, quand même.
C'est très étrange. J'aimerais avoir une réponse, mais je ne l'ai pas.
Un héros, c'est donc le film d'Asghar Farhadi. À Cannes, il y avait aussi, cette année, Lingui, les liens sacrés du tchadien Mahamat Saleh Haroun, qui avait reçu le prix du jury à Cannes en 2010 pour Un homme qui crie. Lingui, donc en compétition officielle, c'était un peu la version tchadienne, si j'ose dire, de l'événement, puisque à N'Djamena, dans un pays, le Tchad, où l'avortement est puni par la loi et condamné par la religion, Amina, qui est jouée par Ashwak Abakar, une mère célibataire qui recycle le fil de fer et des pneus et qui tresse des paniers, découvre que sa fille unique de 15 ans, Maria, qui est jouée par Ryan Khalil Alio, est enceinte. Alors, étrangement, dans ce film, qui est assez figé dans sa démonstration, le cinéaste montre davantage la solidarité féminine et ses liens sacrés du titre, qu'il ne dénonce l'oppression patriarcale. C'est un film court, hein, il fait 1h27, et il a laissé, c'est vrai, les festivaliers de Cannes un tout petit peu entre deux eaux. Éric.
Parce que c'est du cinéma naïf, comme on dit qu'il y a de l'art naïf. C'est un film bien gentil, très calme, tellement calme que c'est presque soporifique par moments. C'est un film sur les femmes tourné par un homme, mais c'est quand même un petit peu le catalogue de la redoute de tous les bobos de la société. Hein. C'est l'excision, l'avortement, le patriarcat, la religion. Tous les hommes sont mauvais, sans exception. L'imam, lui qui dit à la mère qui vient le voir et à qui il reproche de ne pas aller à la mosquée, lui dit « Nous sommes tous frères dans l'islam », ce qui est quand même un comble de dire ça à une dame. Et ce qui est pas mal dans le film, c'est que c'est le point de vue de la mère et pas de la gamine. C'est ça qui est
intéressant. La gamine, la jeune fille, tu veux dire.
Elle a 15 ans.
Bah oui, mais enfin.
Oui, bon, alors la jeune fille, si tu veux, mais gamine, c'est pas une insulte. Mais le film est quand même bien didactique et explicatif parce qu'il y a quand même beaucoup de discours et de dialogues pour nous montrer tout ce qui se passe là-bas. Mais c'est quand même pas inintéressant. Mais je comprends que ce soit reparti un petit peu bredouille et que ça ait laissé perplexe beaucoup du public.
Charlotte.
Ouais, moi je trouve le film extrêmement maladroit. Il y a un contraste étonnant, c'est que il y a une très très belle image, lumière, de cadre, c'est somptueusement filmé, et je ne comprends pas bien qu'il y ait à ce point un soin formel. Et à l'inverse, un jeu aussi plat, quoi. C'est-à-dire, les dialogues sont plats, les comédiennes ne sont pas très bonnes. Et du coup, moi, j'avais presque.
Elles disent un peu leur texte.
Mais c'est ça, elles annonnent un petit peu.
Au théâtre.
J'ai même l'impression qu'elles jouent vraiment faux, ce qui m'a provoqué un petit malaise, quoi. J'étais un peu embarrassée parce que, évidemment, les intentions sont extrêmement louables et on a envie de défendre ce film, mais il est trop maladroit pour vraiment être pertinent chez nous. Donc, je me demande à qui il s'adresse. C'est-à-dire que peut-être pour des spectateurs qui ont besoin d'être alertés sur les dangers de l'excision, du mariage précoce, pour l'avortement, tout ça, ce serait un peu comme quelque chose d'intéressant pour eux, mais pour nous, public occidental, où évidemment qu'on est contre l'excision, on n'a pas besoin de dialogue aussi explicatif. Donc je trouve le film rate un peu sa cible.
Jean-Marc.
Non, pas du tout. Je le trouve très touchant, au contraire. Et j'aime beaucoup les comédiennes.
On a besoin de toi au masque. C'est très important. Sans Jean-Marc Lalanne, je ne sais pas
le
ce qu'on ferait.
Le masque en terre de contraste.
Voilà, non, je trouve
pas
que...
Bonnes, Jean-Marc.
Moi, je trouve qu'elles sont très bonnes, justement, parce qu'elles n'appuient jamais le dramatique des situations. Il y a quelque chose qu'on pourrait qualifier de post-bressonien, mais un peu comme l'équivalent d'un Philippe Faucon. Il y a une manière de dire le texte un peu recto-tonique, Bono, que je trouve très en accord avec la mise en scène extrêmement dépouillée, extrêmement épurée, et en même temps très sensuelle. C'est-à-dire que malgré cette volonté d'épure, il y a quelque chose dans la lumière, dans la présence des actrices, de très incarné, de très vivant, alors que le film est par ailleurs sur la mise en scène très, très rigoureux, et sur une dramaturgie qui est aussi celle du piège, un peu comme dans le Faraday, du compte à rebours. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'hystérise pas ça par des effets de suspense et de rebondissement sans arrêt pour faire monter l'adrénaline, qui a au contraire une sorte de calme dans l'énonciation qui permet d'être simplement avec les personnages et là, pour le coup, de vraiment respirer avec eux, ce qui, pour moi, le film est très très attachant.
Michel.
Oui, je ne suis pas surpris parce que Jean-Marc appartient à une école critique qui considère que la maîtrise, je parle de la maîtrise dans le cinéma d'aujourd'hui, pas la maîtrise de Fritz Lang, Hitchcock, non, mais aujourd'hui, la maîtrise est très mal vue. Alors effectivement, ce film est si peu maîtrisé que je comprends son enthousiasme. Mais
c'est parce que tu as une idée extrêmement préconçue de ce qu'est la maîtrise, tu vois, Michel.
Mais
je pense que ça
alors,
bouge aussi.
Je voudrais dire d'abord que ce metteur en scène a beaucoup de talent. Il a fait en particulier un très bon film qui s'appelait Darat, saison sèche, qui est un des meilleurs films africains. Donc il a beaucoup de talent, mais effectivement, il a le sens de la composition, le sens de l'image, mais le reste est déficient. C'est-à-dire que l'interprétation est absolument flottante. C'est gorgé, comme le disait aussi, je répète, mon voisin Eric, de bons sentiments. Et la presse ne lui rend pas service en faisant une sorte de devoir d'aide, de soutien. Il faut le dire, même un film africain peut être pas très réussi.
Lingui, les liens sacrés, le film de Mahamat Saleh Haroun. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Non. Une femme du monde, c'est le premier long métrage de Cécile Ducrot avec Laure Calamy dans un rôle inhabituel, puisque la marcheuse. Et quelle marcheuse d'Antoinette dans les Cévennes est ici Marie, prostituée à Strasbourg depuis 20 ans, qui a ses clients comme on a ses habitudes, et qu'elle reçoit chez elle. Elle a aussi un fils de 17 ans, Adrien, qui est joué par Nissim Renard, une tête brûlée, expulsée de son lycée, qui veut faire des études pour devenir cuisinier, études évidemment dans une école coûteuse, que Marie va devoir payer sans en avoir les moyens. Elle décide alors de perdre son indépendance pour aller travailler dans une boîte de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, qui s'appelle l'Altromondo, où elle découvre à la fois l'autorité d'une mère maquerelle, la rivalité entre les filles et surtout une clientèle en grande partie sordide. Un film qui repose à 100%, il faut dire, sur la prestation de Laure Calamy. Jean-Marc.
J'aime bien le film, alors que j'ai d'abord, dans un premier temps, été gêné par certains très formels. Là aussi, c'est un scénario qui est celui de l'engrenage, où un personnage essaie de remonter le courant avec un effet de compte à rebours. Et je trouve aussi que le film hystérise un peu ça, c'est-à-dire en rajoutant des contrariétés, toujours des embûches sur le parcours du personnage, et je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu formaté dans sa construction dramatique. Mais au fur et à mesure qu'il avance, et c'est difficile, disons, de ne pas spoiler, mais je trouve que finalement il est très intelligent dans ce qu'il dit, et que le point de vue qu'il donne sur la parentalité, sur les fantasmes qu'on projette sur un enfant et sur la manière dont cette vie qu'on rêve pour ses enfants est en fait quelque chose qui est de l'ordre dans l'heure et auquel il faut renoncer. Et je trouve que le personnage, Laure Calamy est évidemment une très grande actrice, elle est formidable, mais le personnage de l'adolescent est vraiment extrêmement bien cerné aussi, et l'acteur est remarquable. Cette émancipation d'un adolescent d'une question que sa mère fabrique et dont elle fait une question de vie ou de mort, mais alors que finalement, peut-être, l'issue est ailleurs. Je trouve que ce que raconte le film est très, très beau, finalement.
Éric.
Ben dans Antoinette et les Cévennes, Laure Calamy avait un âne pour partenaire. Ici, il y en a plusieurs, parce qu'il faut voir les clients qu'elle a. Quel boulot à faire. C'est ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'on voit ce que c'est que le travail de prostituée. Et que dans le film, ça n'est pas du tout un problème, même pas pour le fils. Ça n'a pas l'air de l'étonner, ce que fait sa mère. Du moment qu'elle ne va pas dans des zéro center, là, ça le choque. Mais chez elle, quand il n'est pas là, ça ne le trouble absolument pas. Moi, j'aime beaucoup dans les films quand on voit le travail, que ce soit prostitution ou n'importe quoi d'autre. Et Calamy porte le film sur ses épaules, hein, complètement. Et on voit ce que c'est que la parentalité, comme dit Jean-Marc. C'est le rapport avec ce fils adolescent qui est une tête à claque, qui ne sait pas très bien ce qu'il veut, qui veut s'inscrire dans cette école hors de prix, et la mère qui se débat comme une folle pour lui payer ses études.
Le vrai sujet du film, c'est l'éducation, en fait, beaucoup plus que la prostitution.
Oui. C'est, un peu comme, enfin, on s'en fout mieux, comme dans le film africain, une mère qui ne veut pas que son enfant devienne comme elle, fasse un métier qui ne l'intéresse pas. Et le film est assez fort pour ça. Le passage là dans le bordel de l'autre côté de la frontière en Allemagne est très très intéressant et très bien foutu parce qu'on voit aussi la rivalité entre les filles.
C'est pas non puis on voit bien ce que c'est que de passer d'un statut de
indépendante
qui a sa vie finalement assez routinière à tout d'un coup à la machine
au salariat. C'est
effrayant,
c'est un film marxiste
boîte allemande,
presque, tu vois. Mais là ça, c'est quand même pas mal du tout et ouais ça. Le seul petit reproche, c'est que c'est quand même d'une facture très télévisuelle, hein, l'image.
Charlotte.
Une travailleuse indépendante, mais militante aussi, parce qu'il y a un volet aussi de
elle
milite pour les droits des travailleurs du sexe. Personnage qui fait évidemment penser à Griselda d'Israël, dans cette façon de s'assumer, de ne pas cacher.
Griselda d'Israël était beaucoup plus intellectuelle, hein.
Certainement, mais
pas simplement parce qu'elle écrivait, mais même dans son fonctionnement. Elle est plus politisée encore que ne l'est
le
personnage.
Mais là, on y pense. Enfin, en tout cas, moi, j'y ai pensé un petit peu. Et qui ne le cache pas, ni à son banquier, ni à sa famille, ni à son fils, comme disait Eric. Donc oui, il y a ce rapport à la parentalité. Lorca Lamy, elle est absolument démente. Je vois qu'elle, je pense, dans les actrices françaises pour jouer un rôle pareil, c'est-à-dire qui est aussi à l'aise avec son corps, qui s'affirme et qui a cette force de caractère parce qu'elle se bat contre tous les obstacles pour effectivement inscrire son fils. Après, au bout d'un moment, moi, le scénario, j'étais un peu comme Jean-Marc, quoi. C'est-à-dire je voyais les embûches s'accumuler et tout en faisant un petit peu du surplace. Et il y a un moment, quand même, arrive un dilemme moral. Alors, je vais pas le révéler, mais il y a une histoire de vol d'argent où là, tout d'un coup, je pensais que le film allait prendre un autre chemin ou en tout cas une dimension un peu de dilemme qu'auraient pu écrire les frères Dardenne, par exemple, mais qui finalement se résout deux scènes plus tard.
Oui, mais qui est un épisode très fort, mine de rien.
Qui est un épisode fort parce qu'il révèle quelque chose de cette femme, mais je regrette un peu que la réalisatrice n'ait pas un peu plus fouillé cet aspect-là. Donc oui, pour Lorca Lamy, après, je grimpe pas au rideau. Enfin, pardon, l'expression n'est pas la mieux choisie.
C'est combien
C'est un film à voir pour Lorca Lamy. Voilà.
Voilà. Michel.
Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est un premier film de talent. Elle est vraiment exceptionnelle. Et moi, j'ai pensé. J'attends toujours d'un premier film vraiment quelque chose qui me bouleverse complètement, qui renouvelle le regard sur les choses, qui invente un style. J'ai pas retrouvé ça là. J'ai pensé au cinéma français des années 50. Ça pourrait être un film de Gilles Grangier ou de Henri Verneuil. Et c'est pas méprisant. Joué par Françoise Arnoul, une sorte de tranche de vie naturaliste, avec une touche moderne, évidemment. Je dis pas que le film, c'est la même thématique. Donc j'ai trouvé le film très bien mené, le jeune garçon très, très épatant. C'est un bon film. Simplement, j'attends plus d'audace, plus d'originalité. Voilà. Dans les premiers films, c'est souvent la révélation d'un regard nouveau sur le monde que je n'ai pas trouvé ici.
Enfin, ça ne nous empêche pas de rappeler, de répéter que Lorca Lamy est vraiment qui d'ailleurs a beaucoup joué au théâtre.
Le film était
en train d'exploser film après film.
Elle le mérite.
Et elle le mérite. Une femme du monde, le premier film de Cécile Ducrot. Des réactions sur ce film. Oui, le micro vient vers vous.
Bonsoir tout le monde, bonsoir la tribune. J'ai trouvé le film magnifique. La salle était remplie et très émue. Ce film est vraiment un bijou dans le joyau solitaire et Lorca Lamy. Elle tient tout le film sur ses épaules, même si le contre-champ de son fils est très intéressant. D'ailleurs, le contre-champ de son fils m'a fait penser au cinéma des frères Dardenne. Il y a un cinéma brut à l'os comme ça, très social. Et c'est pas du tout, pour une fois, c'est un cinéma qui est en province, dans les régions, dans l'est de la France. Donc j'ai trouvé que c'était un très très beau film. Et il y a un plan politique sur le film quand même, parce que c'est pas un film sur l'enfant, c'est quand même un film sur la prostitution. Et c'est un film de femmes. Et ce film aborde quand même la problématique de la pénalisation des clients. C'est plusieurs fois répété dans le film. Donc vous avez parlé d'un film marxiste, et donc il fait une approche marxiste de la pénalisation des clients. On voit donc que la pénalisation des clients emmène les femmes, les prostituées à la marge de la ville, et donc elles sont fragilisées, que ça tire les prix vers le bas et donne la puissance encore à l'homme supérieurement. Et troisième chose, je terminerai là-dessus, ça fait trois fois que je vais UGC au public classique, en sortie. Ils mettent des films en première exclusivité dans des toutes petites salles. ce qui fait que les salles sont bondées. Et là, ça fait trois fois que je vois ça. Donc, petit clin d'œil, je ne félicite pas les programmateurs de cette grande maison qui est l'UGC.
Merci à vous, cher Cédric, fidèle du masque, et puis aussi critique de cinéma. Sur le web, c'était Une femme du monde de Cécile Ducrot. Les amants sacrifiés du japonais Kiyoshi Kurosawa, co-scénarisé, il faut le dire quand même, c'est important, par Hamaguchi, vous savez, le réalisateur de Drive My Car, qui se détourne, là je parle de Kurosawa, de sa veine fantastique habituelle, avec ce film d'amour et d'espionnage sur fond de Seconde Guerre mondiale et de conflits sino-japonais, avec Yu Aoi et Issei Takahashi. Elle, c'est Satoko, lui, c'est Usaku, un couple moderne, tout à fait moderne, qui vit à Kobe au début des années 40, juste avant le bombardement de Pearl Harbor. Mais après un voyage d'affaires en Mandchourie, le comportement de Usaku, qui est un jeune chef d'entreprise en costard et cravate, change au point d'attirer les soupçons de sa femme et surtout des autorités, avec, pour ajouter à la mise en abîme, le tournage d'un film dans le film, et un épilogue évidemment que je compte sur vous pour ne pas le révéler, film d'1h56, Michel.
Oui, c'est un film surprenant parce que Kiyoshi Kurosawa était plutôt un destructeur, enfin en tout cas, il renouvelait sa façon de cinéma de façon très indépendante, il y avait un côté particulièrement expérimental dans certains de ses films, et là au contraire, il fait un film relativement classique, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans la forme, très pictural, très magnifiquement composé,
reconstitué. Peut-être un peu trop maîtrisé pour Jean-Marc Lalanne, peut-être. On va le savoir.
Il a déçu d'ailleurs les admirateurs habituels de Kiyoshi Kurosawa. Mais ce que j'ai trouvé très, très beau, c'est à la fois un film qui est dans l'histoire et en même temps dans l'intime. Et ce dialogue entre l'intime, entre ce couple, c'est la jalousie de la femme, etc. Et puis d'autre part l'histoire, c'est-à-dire donner la peste aux gens, comme les Japonais le font en Mandchourie. C'est un film assez provocateur par rapport à une mythologie guerrière qui continue à être populaire au Japon, même aujourd'hui. J'ai trouvé le film très séduisant, un peu comme à la Renaissance, un apprenti peintre donne son chef-d'œuvre. C'est-à-dire que montrer qu'on sait maîtriser tous les domaines pour un homme qui a déjà fait une trentaine de films, très bouleversant même dans la facture. Je trouve ça très étrange. Et il y a peut-être l'admiration qu'il avait pour Ryusuke Hamaguchi, qui était son élève, comme tu l'as dit, qui a fait ce fameux Drive My Car et d'autres films très remarquables.
Alors, Jean-Marc?
J'aime beaucoup. Et je trouve le film.
On peut vous réconcilier.
je trouve un peu faussement classique. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément tordu dans le film. Kurosawa, c'est quand même un cinéaste qui a une palette extrêmement étendue. Il a fait des films, comme disait Michel, dans les années 90, qui étaient très novateurs, très, très étranges, des films de fantômes, mais assez peu dans les clous du cinéma de genre. Mais il a déjà aussi donné des films extrêmement classiques, comme Tokyo Sonata, qui était un peu son chef-d'œuvre classique. Là, je dirais que c'est un film faussement classique. L'image est très étrange parce qu'elle imite une sorte de classicisme hollywoodien avec la lumière qui nimbe comme ça tous les objets et les personnages, mais avec une netteté dans l'image ultra numérique, enfin une précision dans le regard qui est glaçant et qui donne une espèce de modernité qui rend presque factice et faux la reconstitution rétro très très soignée. Et donc le film est entre comme ça l'hyper-technologie et le rétro déjà un peu dérangeant. Il y a quelque chose, on sait pas trop où on est et je trouve que la manière dont le film, on voit pas trop où il va, et peu à peu, cette histoire d'espionnage qui met en jeu des réalités historiques cruciales du XXe siècle, on découvre que c'est la métaphore d'un regard extrêmement cruel et amer sur ce qu'est la conjugalité et le couple. Et au fond, ce que dit le film, c'est que dans un couple, on est toujours un agent double, et que le vrai lieu de la trahison, du double jeu, c'est l'amour. Et la manière comme ça, de tout à coup, de ressaisir tout ce grand fatras historique pour dire un énoncé aussi fort sur ce que c'est qu'une relation amoureuse toxique, je trouve ça assez impressionnant.
Eric,
c'est un très beau film, ça. C'est pour moi, c'est presque aussi bien que de la littérature quand elle est réussie, comme un mélange de Graham Greene et de Modiano, parce qu'il y a une ambiance très vénéneuse tout le temps. L'image comme ça qui ressemble à l'eau d'un aquarium un peu trouble, et comme disait Jean-Marc, oui, c'est l'adjectif rétro qui convient pour ce film. Mais il y a aussi plein de trous, plein de mystères, de questions qui restent sans réponse là-dedans, dans ce mélange d'histoire et d'intime. L'amour est toujours un mystère et la guerre s'immisce là-dedans et on ne sait jamais sur quel pied danser, ce qu'ont fait les personnages. Le doute s'installe tout le temps et c'est un film très très beau, très troublant. Je l'ai vu deux fois, je n'ai toujours pas tout compris, mais ça c'est sûrement ma faute. Et je pense que je le reverrai une troisième
fois. Mais il est objectivement très complexe. Hein.
Ah oui, c'est très complexe, très maîtrisé. Hein. Et j'espère que ce Kurosawa a enfin compris que c'était sa voix-là et pas son côté tordu.
Charlotte. Oui,
la complexité, je voudrais rassurer les auditeurs, c'est pas Mulholland Drive non plus. C'est-à-dire qu'on comprend quand même, me semble-t-il, ce qui se passe, même s'il y a des zones d'ombre et un certain mystère.
L'emboîtage est quand même cool. Si, l'emboîtage est très singulier.
Et alors, c'est vrai que Jean-Marc parlait de l'image. Il faut préciser que c'est un film qui a été tourné en 8K, ce qui est un truc complètement dingue. C'est-à-dire, c'est le double de l'ultra HD. C'est quasiment presque une expérience. Je crois que c'était une commande de la NHK, la télévision japonaise, pour tester ces nouvelles caméras incroyables. Et c'est vrai qu'un film entier en 8K, c'est fou. Kurosawa, le réalisateur, explique que la définition était tellement dingue de l'image qu'ils ont dû la retravailler en post-prod pour justement lui donner ce petit côté un peu rétro, parce que ça n'allait pas avec le contexte historique. C'est-à-dire que
tu es en train de m'expliquer ce que je n'avais pas compris.
Mais parce qu'un film historique qui se passe en 1940, on n'a pas l'habitude de voir une image numérique.
C'est le coup de la 8K, je ne connaissais pas.
Mais oui, et donc c'est une expérience visuelle incroyable, et effectivement, c'est absolument sublime. Et puis finalement, je crois que c'est un film, Jean-Marc disait, oui, sur le couple, la toxicité, mais sur la confiance aussi. Sur la confiance, et est-ce qu'il faut l'accorder ou pas? Est-ce qu'il y aura trahison ou pas? Et jusqu'au dernier plan du film, je trouve qu'on est saisi par le destin de ce couple.
Les amants sacrifiés, c'est signé Kiyoshi Kurosawa. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film?
Oui,
bonsoir.
Moi, je n'ai pas été du tout séduit par la forme. Alors, je comprends maintenant peut-être parce qu'il y a cette technicité qui fait que... Et j'ai trouvé que c'était très manichéen, ces Japonais occidentaux face à des Japonais brutaux. J'avais préféré Clint Eastwood dans La lettre à Iwo Jima, où il y avait ce commandant qui avait une culture américaine.
Qui était en deux volets.
Puisque lui, il avait été aux Jeux Olympiques en tant que cavalier. C'était beaucoup plus subtil. Là, vraiment, j'ai pas bien compris s'il était cinéaste ou bien marchand. Alors là, vous allez peut-être m'expliquer. J'arrive pas à comprendre comment il revient de Mandchourie avec des images qu'il aurait pris avec la peste. Enfin, moi, j'ai pas tout compris, mais pas pour les bonnes raisons. Voilà.
Merci pour votre intervention à propos des amants sacrifiés. Chère Léa, le septième film de Jérôme Bonnel, avec Anaïs de Moustier, Grégory Montel, vous savez, popularisé par son rôle d'agent artistique dans 10%, Grégory Gadebois, et pour un rôle tardif dans le film, et une scène unique, mais essentielle, je dis bien essentielle, Léa Drucker. Après avoir passé la nuit, comme le fait souvent Eric Neuhoff, dans une entreprise où il a, semble-t-il, forcé un peu sur la bibine, ouais. Jonas...
Je vais rester là toute la nuit.
Parce qu'on ne comprend pas au début, il sort de cette boîte où il était enfermé, on a du mal à comprendre ce qu'il
pas
faisait.
Pas une boîte de nuit, une entreprise,
oui. Enfin, le Figaro, quoi, tu vois. Jonas, donc, qui est joué par Grégory Montel, au lieu de rentrer chez lui, demande au taxi de le déposer à l'adresse de Léa, donc Anaïs de Moustier, son ex, qui est une chanteuse lyrique, plus jeune que lui, et qu'il aime toujours. Elle le rejette, elle lui dit même qu'il la dégoûte. Enfin, c'est clair. Et alors, Jonas s'installe dans le café d'en face, en bas, pour lui écrire une longue lettre d'amour et en même temps d'adieu, d'après ce qu'on comprend. Et le patron du bar, formidable Grégory Gadebois, est plein de compassion pour cet homme malheureux. Et en même temps, il est très curieux à l'égard de l'épistolier à l'ancienne, hein, parce que il soigne avec des plaints et des déliés chacune de ses phrases. Et tout en écrivant, il guette la fenêtre de Léa et surveille surtout les entrées et sorties d'un rival potentiel. C'est un film français, pour moi dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire délicat, drôle, sentimental, avec un grain de folie. On peut pas tout raconter. Eric.
C'est une petite chose charmante et inégale, comme des brèves de comptoir, mais qui ne seraient pas tout drôles.
C'est pas une brève de comptoir, non.
C'est un film, comme on dit, sur le fil, mais aussi un petit peu filandreux. Il y a des baisses de tension, il y a des moments beaucoup moins intéressants. Cet univers de café est assez bien rendu. Et le gars qui écrit une lettre, et ils ont l'intelligence de ne jamais nous en lire des extraits, parce que ça aurait tout gâché. Et ce qui est assez marrant pour nous, c'est que Gadebois s'est fait la barbe de François Nourricier. Et on comprend qu'il s'intéresse à la littérature et qu'il surveille ce qu'écrit son client. C'est très bon enfant. C'est un film un petit peu adolescent. C'est comme du gentil Salvadori. Et peut-être que le personnage, moi ce qui m'a gêné, était un peu trop âgé pour le rôle, pour se comporter comme ça, je sais pas.
Tu parles de Montel, pas
ouais,
tu parles de Montel. Tu trouves trop âgé?
Ouais, non. Et puis il y a peut-être un petit peu trop de personnages inattendus, caractéristiques, le voisin
c'est
bipolaire.
C'est un café, hein, t'as quand même.
Ouais, bah, y a des cafés où il se passe rien. Hein, ouais.
Non, mais je veux dire que c'est un peu le principe du film, ça passe.
Ouais,
ça
ouais,
rentre,
non, ouais, non, mais je déteste pas ça du tout. Hein, ça.
Jean-Marc?
Je trouve que le film a un léger charme et aussi quand même une légère boiterie. Je trouve qu'il est plus inspiré dans la comédie que dans la représentation des sentiments. Je pense que le début du film, où il campe un couple qui n'arrive pas à se séparer, sinon dans la douleur et des tergiversations, j'ai l'impression que c'est assez convenu et peu inspiré, mais à partir du moment où le scénario déraille et où il décide de ne pas quitter ce café, le film s'ouvre à de l'inattendu et il y a des moments de comédie vraiment réussis. Moi, il y a vraiment une scène que j'aime beaucoup où le personnage principal dit beaucoup de mal de quelqu'un avant d'apprendre qu'il y arrive quelque chose de terrible. Il essaie de remonter la pente et c'est une scène où Grégory Montel est vraiment excellent. Donc il y a des moments de fantaisie, de drôlerie assez réussis dans un ensemble qui parfois est quand même un peu inactuel dans la façon de représenter les hommes et les femmes, le sentiment amoureux, les lettres qu'on écrit à la main.
Même la gestion d'un bar par Gadebois, ouais. Malheureusement, ça ne se voit plus beaucoup comme ça. Quelques mots, Charlotte.
Ce qui est assez joli, c'est que c'est un peu le contrepoint de son film d'avant. C'est-à-dire le temps de l'aventure, souvenez-vous à Gabriel Byrne et Emmanuel De Vos, c'était aussi sur le temps d'une journée, mais d'un point de vue féminin, une histoire d'amour empêchée.
C'était plus radical. Hein.
Oui, mais là, on a un peu la même chose, mais du point de vue masculin aussi, sur ce temps d'une après-midi. Mais je suis un peu comme mes camarades, j'y trouve beaucoup de charme, il y a un peu de cocasserie, mais je ne suis pas non plus complètement embarquée dans le film, qui est délicat, mais un petit peu attendu tout de même.
Et Michel?
Moi, pour moi, ce n'est pas attendu du tout. J'aimerais beaucoup le cinéma de Jérôme Bonnel, qui a une petite musique, qui n'est peut-être pas évidemment tonitruante, qui est très discrète, délicate. C'est une somme de petits riens, mais la somme est supérieure à l'ensemble des petits riens, et je trouve que j'aime écouter cette petite musique.
Voilà. Moi aussi, je suis comme toi.
Je la trouve très, très singulière, très attachante par rapport à d'œuvres tonitruantes.
Cher Léa, Jérôme Bonnel, et on termine rapidement avec La Panthère des Neiges, un documentaire de Marie Amiguet et Vincent Munier. C'est l'adaptation, vous l'avez compris, du livre dans lequel Sylvain Tesson racontait son expédition au Tibet en compagnie du photographe Vincent Munier. Leur but, apercevoir, en général par moins 20 degrés, la fameuse et très rare panthère des neiges, un animal totémique, et l'occasion aussi pour Sylvain Tesson de réfléchir sur l'état du monde et sa beauté menacée, tout en évoquant la disparition de sa mère et sa rupture avec une femme qu'il n'a pas su retenir. Cette bête songe fugace, écrit-il, est-elle le totem des êtres disparus. Alors on voit aussi des yaks, hein, des antilopes, des loups, des renards, bref, c'est peuplé de beaucoup d'animaux, même si on attend évidemment pendant 1h30 l'arrivée de cette panthère des neiges. Charlotte?
Écoutez, il y a une avalanche de documentaires qui veulent nous alerter sur l'écologie, le monde qui va mal et tout ça. Et moi, j'en peux plus. Donc, j'y allais un peu avec des pieds de plomb. Et j'ai été totalement saisie par la beauté de ce film qui, effectivement, fait le choix de nous montrer plutôt la beauté des paysages et des animaux plutôt que la dévastation de l'homme. Moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir tout en étant au chaud dans la salle parce qu'on voit que les conditions de tournage pour eux ont été très, très dures. Voilà, musique de Warren Ellis et Nick Cave qui est magnifique. Et je trouve que le film, vraiment, il a en son cœur la question du regard, parce qu'on voit ces deux bonhommes qui regardent le paysage, qui sont eux-mêmes regardés par des animaux.
C'est un paysage quand même très,
très blanc, hein. Oui, à leur insu. Hein. Et nous, on apprend aussi à lire et regarder attentivement ces paysages, parce qu'en fait, c'est complètement peuplé, mais on ne le voit pas au premier coup d'œil. Et je trouve le film vraiment très, très beau.
Éric.
C'est un très beau film. C'est un film chuchoté avec la voix off de Tesson tout le temps.
Qui est très proche du texte de son livre.
Oui, hein. Oui, mais c'est ça qui est fort. Ils sont retournés là-bas et ils ont retrouvé les animaux en question, dont peut-être.
Enfin, la panthère n'apparaît qu'à la fin du film.
Oui, hein. Mais ça, heureusement. Sinon, il n'y aurait pas eu de film. Et c'est un film qui vous hisse au-dessus de vous-même. C'est tellement inspiré, tellement profond, tellement fort que c'est rare. Ça, dans son fauteuil, on peut se retrouver sur ces sommets tibétains et penser à quelque chose qui est différent de ces fins de mois ou des embouteillages. Et je ne sais pas si la beauté sauvera le monde, mais en tout cas, ce film montre que le monde doit sauver cette beauté-là.
Michel?
Oui, moi, ça n'a pas marché. Bon, je pense que Sylvain Tesson, dans la mesure où c'est tiré de son livre, tenait absolument à nous faire beaucoup de commentaires, de parler de la vie, de la philosophie, etc. J'ai trouvé ça suant. Et les paysages sont magnifiques, c'est vrai.
Que... Par moins 20, c'est bien.
Suant par moins 20, c'était un peu une prouesse. Hein.
Les paysages sont sublimement filmés. Mais je rêvais d'une fiction à partir de ça, une fiction à la John Huston, à Moby Dick, au trésor de la Sierra Madre, le Faucon Maltais, c'est-à-dire la recherche de la Panthère Rose. Ça aurait pu être un film de fiction absolument envoûtant, passionnant. Et on a un documentaire un peu animalier qui m'a pas paru, à part les prises de vue qui sont somptueuses, assez terne.
La Panthère des Neiges, Marie-Amiguet et Vincent Munier. Allez, le temps est venu des conseils. On va commencer avec Charlotte.
Bah, puisqu'on a été court sur cette panthère, je vais en remettre une couche. Puisqu'il y avait eu le récit donc de Sylvain Tesson qui avait obtenu le Renaudot en 2019, Gallimard vient de sortir l'édition Beau Livre, c'est-à-dire le même texte mais enrichi d'une centaine de photos de Munier. Et je trouve que se replonger dans le texte et les photos est un prolongement de l'expérience. Voilà, Noël arrive, c'est un beau cadeau à faire.
Donc Tesson en Beau Livre, le conseil de Jean-Marc.
Alors l'édition en coffret Blu-ray DVD de tous les films d'Antoine Doinal de Truffaut,
ah oui.
Des 400 coups à l'amour en fuite. Les films ressortent en salle en même temps, donc on peut avoir le plaisir de les voir ou revoir sur grand écran. Mais le coffret est remarquable comme objet d'édition. Il y a énormément d'images d'archives où on voit Truffaut parler. Il y a une présentation de chaque film par Serge Tourbiena. C'est vraiment un très bel objet.
Mon conseil, ça s'appelle Noël. Mais pas la fête de Noël, hein. Noël et sa mère, et c'est signé de l'écrivain Arthur Dreyfus. Étonnant portrait de Noël Herp, que Michel connaît bien, puisqu'il est écrivain, prof et critique de cinéma à Positif. Fan de René Clair et d'Henri-Georges Clouzot, expert en travestissement. Il porte volontiers barésie et talons hauts. Je ne sais pas s'il vient comme ça là, aux réunions de Positif. Et que Dreyfus place sur une scène de théâtre face à sa mère, Michel. Et là, pendant quoi une heure et demie, les deux s'engueulent, se font d'incessants reproches, crient leur manque d'amour. Et je signale quand même qu'en marge de ce vaudeville freudien, parce que c'est vraiment et freudien et un vaudeville, Noël Herpe publie « Les films me regardent » aux éditions Hémisphère, où il confesse sa passion pour le cinéma estompé, les acteurs évidemment en chausses moulantes, Gaby Morlaix et surtout l'ange Gérard Philippe quand il portait des collants. Voilà le conseil de Michel.
Bah, écoute, c'est le même. Alors,
ah bon
bah oui, tu me l'as pas dit.
Je pensais pas que tu allais faire l'éloge d'un de tes collaborateurs.
Oh, mais c'est pas gênant. Noël Herbe, d'abord, il a écrit dans beaucoup de revues. Je trouve que c'est un écrivain d'immense talent. Et effectivement, ce livre de recueil d'articles est passionnant. Il y a quelques-uns de positifs, il y en a beaucoup d'autres. Et puis, alors, ce film étonnant, ce psychodrame extraordinaire que j'ai découvert en me disant, mais comment ce film n'a pas eu une audience plus grande? Pourquoi il n'était pas à Cannes? C'est un document inouï de malentendus, d'incompréhension.
Entre une mère et son fils.
Ces confrontations permanentes, c'est je t'aime moi non plus. Enfin, c'est stupéfiant comme document. Et puis, je voudrais insister après Nicolas Chalère, qu'un des plus grands films de l'année, c'est tout de même le film de Jane Campion.
Sur Netflix,
Power of the Dog, sur Netflix, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu.
Que Nicolas a conseillé il y a 15 jours. Le conseil d'Éric.
Le nouveau numéro de Schnock, qui est consacré ce coup-ci à Claudia Cardinale. Et je ne sais pas si tu es comme moi et plusieurs garçons de notre génération. J'ai longtemps cru que les premiers saints que j'avais vus au cinéma, donc dans la vie à l'époque, étaient ceux de Claudia Cardinale dans Les Professionnels. Eh ben non, pas du tout, puisqu'elle est habillée, mais le cinéma a ce pouvoir de vous faire imaginer ça, et le magazine raconte tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur cette actrice qui a joué dans beaucoup de westerns et dans des films magnifiques comme ceux de Zurlini, avec en prime un hommage à Jacqueline Sassard, l'actrice des Biches et d'Accident de Lozay, qui est morte l'été dernier.
Comme l'émission se termine, on ne saura pas quels ont été vraiment tes premiers saints, mais ça sera pour une autre émission. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Jean-Marc Lalanne, Éric Neuhoff et Michel Simon pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir, au Théâtre de l'Alliance Française, à la technique, il y avait, et je les remercie, Cédric Chatelus, Tahar Bouklifa, ainsi que Lucas Derode. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Et notez bien que le prochain enregistrement du masque, eh bien, il aura lieu le jeudi 6 janvier. Ce sera à partir de 19h au Théâtre de l'Alliance Française, 101 Boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de théâtre et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.